Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible qui offre des principes intemporels et efficaces pour qui les applique.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.
Provision de vie, nous investissons en vous.
Nous investissons en vous.
Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous les bienvenus ce matin dans la présence de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles, on va prendre encore un moment dans la parole de Dieu. Et depuis quelques semaines, on est dans un thème où le Saint-Esprit nous a conduits, et je disais encore hier à Sophie qu'à chaque étape, parce que c'est comme des étapes que nous prenons dimanche après dimanche, j'entrevois une étape suivante et je vois comment le Seigneur a un plan qui est grand, qui est beau, qui est bon. Et ce programme dans lequel nous sommes depuis maintenant, ça va être la quatrième semaine, c'est un programme de rénovation mentale. Alors si vous avez une Bible, ouvrez Romains chapitre 12, verset 2. Et rassurez-vous, vous qui peut-être nous prenez en cours de route ou qui êtes là avec nous aujourd'hui exceptionnellement, soyez vraiment les bienvenus et vous allez voir, vous allez pouvoir vous accrocher à ce qui se fait. Parce que même si vous avez peut-être manqué quelques parties, vous allez pouvoir rapidement retrouver et puis profiter de ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Hein, donc on avait déjà sur ce thème trois enseignements, trois parties. La première, c'était nos images mentales. Et je vous avais montré comment les pensées que nous nourrissons, les réflexions que nous avons, produisent en nous une image. Et cette image va nous amener quelque part. L'image que nous avons en nous-mêmes et que nous contemplons, c'est ce vers quoi nous allons nous porter naturellement. On avait vu combien il était important, du coup, de veiller sur nos pensées pour nourrir une image conforme à ce que Dieu dit de nous, conforme à nos plans, conforme à nos objectifs. Nous avions vu qu'un homme est semblable aux pensées de son cœur. C'est écrit dans les Proverbes. Nous avons vu également que ce que nous contemplons, c'est ce que nous devenons. D'où l'importance d'être vigilant sur nos images intérieures. Je fais un résumé bref, mais je vous encourage, pour ceux qui auraient manqué ou qui ont besoin de réviser, vous pouvez aller, si vous avez Internet gratuitement, sur notre site provisiondevie.com et vous pouvez écouter, télécharger tous ces messages et beaucoup d'autres pour vraiment profiter pleinement de ce qui a été communiqué. Soyez pas Internet, faites-nous signe, on vous fera un CD gratuitement. Ça s'appelle Provision de vie. Ce programme que Dieu a mis dans nos cœurs de pouvoir partager la parole autour de nous de façon libre, gratuite, pour que ces messages puissent toucher les vies, les cœurs et que le nom de Jésus soit glorifié. Donc nos images intérieures, on a vu combien il nous fallait entretenir la bonne image. Et je sais que pour plusieurs, ce jour-là, alors que le Saint-Esprit agissait parmi nous, on a pu brûler les vieilles photos, arracher les vieux posters qui n'avaient pas leur place et puis mettre à la place une image toute neuve, l'image que Dieu lui-même a de nous-mêmes, l'image du plan que Dieu a mis dans nos cœurs. Et on a commencé à progresser, c'est très bien comme ça. Et puis dans un deuxième temps, on a parlé de connecter par nos pensées. Et je vous avais montré également à travers plusieurs passages de la parole de Dieu que les pensées que nous nourrissons nous connectent à leur objet. Notamment dans Romains 8, il est écrit que la pensée de la chair mène à la mort, mais la pensée de l'esprit mène à la vie. On a vu également que dans l'épître aux Hébreux, que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qui va jusqu'à diviser esprit et âme, comme aussi les os, la moelle, etc. On a vu qu'il y avait une connexion, un lien entre ce qui se passe dans notre âme, c'est-à-dire notre intellect, les pensées que nous nourrissons, et notre esprit. De la même manière que Dieu nous parle dans notre esprit en nous donnant des révélations de sa personne et de sa parole que nous allons ensuite communiquer à notre âme pour les comprendre et les vivre réellement, de la même façon, ce que nous mettons dans notre âme va nourrir notre esprit. C'est pour ça que régulièrement dans la parole, il nous est dit de se nourrir de la parole de Dieu, de méditer sa parole, de fixer nos pensées, notre attention sur ce qu'il dit. Parce que ce à quoi j'occupe mes pensées, mon attention, c'est ce qui va nourrir mon être intérieur. Et si je passe mon temps à polluer mon être intérieur en écoutant n'importe quoi, en regardant n'importe quoi, eh bien je ne peux pas m'attendre à pleinement vivre les effets de la parole de Dieu qui devrait être ma nourriture. On peut faire le parallèle physique très facilement. Si je mange n'importe comment, si je mange que des choses grasses ou bien trop sucrées ou bien trop salées, pour ne pas citer la campagne nationale de vigilance sur les problèmes de santé, mais je ne peux pas m'attendre à être en bonne santé. J'ai besoin de manger quelque chose d'équilibré, quelque chose qui est bon pour moi. Et de la même manière, nous avons besoin de nous nourrir comme il faut Et on a vu également que régulièrement dans la parole, il nous était montré que, par exemple, dans la Genèse, lorsque les hommes nourrissaient des pensées de mal, ça les a conduits au péché à tel point que Dieu avait décidé de détruire toute l'humanité. On a vu que les pensées du cœur d'un homme le conduisent à la convoitise et finalement à consommer le péché, et que tout cela, c'est quelque chose de hautement important à réaliser, et nous avons besoin d'être vigilants. On a vu également de façon très concrète que si la parole nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut, de fixer nos pensées dessus, nous pouvons aussi nous connecter à Dieu à travers ses pensées. C'est-à-dire que certes nous prions, donc nous sommes dans la présence de Dieu, nous chantons des louanges, tout cela, mais tout ce que nous prions, tout ce que nous chantons, c'est pas juste un son, une parole. Hein, nos paroles et les sons que nous émettons sont le véhicule d'une pensée. Donc quand nos pensées sont fixées sur Dieu et que nous l'exprimons à travers nos paroles, nos chants, nos adorations, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on est concrètement dans la présence de Dieu. On prend conscience de sa présence, on prend conscience de sa gloire et on peut même physiquement ressentir des effets. Pourquoi? Parce que nos pensées nous connectent. Mais de la même manière, lorsque nous nourrissons les mauvaises pensées, nous nous connectons à ces mauvaises choses et à ces mauvaises sources. Donc, à nous de choisir, connectés par nos pensées. Ensuite, la semaine dernière, nous avions encore un peu continué. Nous allions parler de fixer nos pensées, et en particulier de l'objet de nos pensées. Un verset que beaucoup attendaient dans Philippiens chapitre 4, où il nous est dit que tout ce qui est bon, vrai, juste, agréable, qui mérite l'approbation, qui est honorable, qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. On a vu ensemble comment Dieu nous engageait à fixer nos pensées. Très souvent, on peut être tenté de divaguer, d'avoir nos pensées qui partent dans tous les sens. Et devant une situation, on peut penser à tout et à n'importe quoi. Ou même au quotidien, on peut penser à tout ou à rien. On peut passer du coq à l'âne dans nos pensées en quelques instants. Mais la Bible nous engage à fixer nos pensées. À fixer nos pensées sur Dieu. À fixer nos pensées sur ce que Dieu dit de nous. À fixer nos pensées sur ce qui est bon, juste, droit, agréable, digne de louange, qui mérite l'approbation. Et en fait, d'une certaine façon, à filtrer ce que nous accueillons dans nos pensées. Hein, parce que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui vient vers nous. Par contre, nous pouvons décider de ce que nous accueillons ou pas. Et lorsqu'une pensée se présente à nous, lorsque quelque chose passe comme cela, nous avons la responsabilité de filtrer. Si la pensée est conforme à ce que Dieu dit, ok, je l'accueille, je la nourris et je me porte vers cette pensée. Mais si cette pensée n'est pas bonne, n'est pas vraie, n'est pas juste, n'est pas sainte, n'est pas agréable, n'est pas digne de louange, je la rejette. Et nous avons cette autorité et cette responsabilité parce que Dieu lui-même nous en parle et nous y engage. Et on a vu des exemples de plusieurs personnes qui avaient des pensées erronées, mais ensuite Dieu aussi leur a permis de réaliser ce qu'il en était vraiment et de se réajuster. Donc on a besoin de fixer nos pensées sur la bonne chose. Et aujourd'hui, j'aimerais poursuivre encore un peu dans ce thème de la rénovation mentale et reprendre un passage sur lequel nous étions restés la dernière fois pour parler des forteresses. Et ce matin, on va un petit peu cogner ensemble et on va abattre certaines forteresses en ce qui nous concerne nous-mêmes, au sujet de notre personne. Donc, Romains chapitre 12, verset 2, on va quand même lire ce passage de référence. Romains 12, 2. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ça, c'est l'instruction que Dieu nous donne. Ne vous conformez pas au siècle présent. D'autres versions nous disent « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. » Ou bien « N'adoptez pas le fonctionnement de ce monde. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc se conformer à ce monde, c'est très facile. Parce que nous avons tous, dans différents contextes, une forme de pression qui s'exerce sur nous pour qu'on soit conforme à l'image qu'on doit avoir. Que ce soit à l'école, il y a une image, une pression qui est sur nous parce qu'il faut s'habiller comme les autres, parler comme les autres, avoir le même téléphone dernier cri que les autres, il faut regarder les mêmes programmes télé que les autres, il faut fonctionner de la même façon que les autres. Et c'est vrai dans tous les domaines. Il y a une forme de pression qui est là pour nous conformer. Mais Dieu, lui, n'a pas le plan ou le désir de nous conformer ou que nous nous conformions à ce monde, mais Dieu désire que nous soyons transformés. Transformer, littéralement, c'est métamorphoser. Je vous rappelle, la métamorphose, c'est le processus qui fait qu'une chenille devient un papillon. Donc il y a un changement radical, un changement total, un changement même de nature. Et comment est-ce qu'on peut être transformé, métamorphosé ou changé de nature? La Bible nous dit par le renouvellement de l'intelligence. Une autre version donnée aussi par un changement complet de votre mode de pensée. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes engagés à travers ces messages. Donc regardons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 10. Nous prendrons les versets 4 et 5. C'est ce sur quoi nous avions conclu la dernière fois, mais on va rentrer plus en profondeur dans ce qui nous est enseigné ici. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ce verset, peut-être que certains y sont familiers, l'ont entendu. Et quelquefois, voire même souvent, on utilise ce verset dans le domaine de ce qu'on appelle la délivrance. Et peut-être qu'il en fait partie, mais si on regarde très bien et si on observe très bien ce verset, il n'est pas tellement question de délivrance. Il n'est pas tellement question d'oppression démoniaque ou satanique. Il est question de renverser les forteresses qui sont liées à quoi? À des raisonnements. Un raisonnement, c'est pas un esprit, c'est pas un démon. Un raisonnement, c'est un ensemble de pensées que je nourris, que je développe. Donc on voit qu'il y a des forteresses qui sont forgées par des raisonnements. Autrement dit, certaines de mes pensées, certains de mes raisonnements vont construire des murs à l'intérieur de moi-même. Et une forteresse, ça peut représenter la sécurité, mais une forteresse, ça peut aussi représenter une prison. On peut se retrouver prisonnier derrière un grand mur, une forteresse, une tour dans laquelle on est enfermé. Et en fait, nous pouvons, par nos pensées, nos raisonnements, construire nous-mêmes une prison autour de nous. Et si bien qu'à un moment donné, notre cœur, notre être entier se trouve comme en prison derrière un ensemble de raisonnements et de systèmes de pensée que nous avons construits nous-mêmes. Et parfois ça commence dès l'enfance, ou parfois c'est une expérience particulière qui nous met dans cette situation. Hier soir, la télé fonctionnait un petit peu, et en passant, j'ai entendu une émission et on parlait d'une dame qui avait une phobie de la voiture. Et cette dame était vraiment dans tous ses états, elle était dans une panique extrême lorsqu'elle montait en voiture. Et cette dame a reconnu que c'est depuis un certain jour, alors qu'elle avait une leçon de conduite, 24 années auparavant, qu'elle s'est retrouvée dans un chemin un peu étroit et qu'elle s'est trouvée du coup quasiment nez à nez avec un gros camion et qui lui a mis une panique soudaine. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais osé ni conduire. Mais même quand elle est en voiture à côté de son mari qui conduit prudemment, elle se met dans tous ses états. Elle ne supporte quasiment pas la voiture. Elle a développé une peur, panique, une phobie de la voiture. Et à chaque fois qu'une voiture arrive, pour elle, c'est comme si la voiture allait se jeter sur eux. Elle ne supporte pas l'idée même d'être en voiture avec des véhicules qui viennent en face. Elle ne peut pas se maîtriser. Et ensuite, ils ont montré un petit peu ce qu'ils avaient fait pour elle et elle a rencontré quelqu'un qui a essayé de l'aider. Et ce que j'ai trouvé également intéressant, c'est que ces spécialistes se sont tout de suite rattachés à une question de pensée. On me dit, mais madame, si vous paniquez, est-ce que vous pensez réellement que la voiture qui est en face va doubler dans un virage et que la personne a envie de mourir pour se jeter sur vous? Et à ce moment-là, la dame s'est rendue compte, mais c'est vrai, c'est absurde ma pensée. Pourquoi quelqu'un doublerait dans un virage? Alors, on sait toujours qu'il y a des chauffards qui peuvent faire tout et n'importe quoi, mais au fond, pourquoi chaque voiture se jetterait sur elle? Pourquoi chaque camion risquerait de la renverser, de la faire sortir de la route? Mais elle avait bâti un mode de pensée. Elle avait construit une forteresse. Et pendant 24 années, elle était prisonnière d'une forteresse qu'elle avait elle-même construite à partir d'une pensée, d'une expérience, d'un événement. Et pendant 24 ans, elle ne supportait pas d'être sur la route à cause de ça. C'est parti de quoi? D'une pensée. Qui en a appelé une autre, puis une autre. Et elle est restée sur ces pensées-là, elle a nourri ces pensées-là, elle a construit une forteresse. Mais quand la lumière s'est faite, si on peut parler comme ça, elle s'est rendue compte que ce mur n'avait rien à faire là. Elle s'est rendue compte que c'était parti de quelque chose d'absurde, d'illogique. Et la bonne nouvelle, c'est que même si nous avons des forteresses que nous avons construites, ou peut-être que certaines pensées qu'on nous a léguées ou qu'on nous a transmises ont construites dans nos vies, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut faire la lumière sur ces pensées, sur ces forteresses, sur ces raisonnements, pour que nous puissions en sortir, pour que nous puissions abattre les forteresses. Ici, il est bien dit, nous renversons les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et beaucoup de gens marchent comme ça avec des pensées, en me disant, mais je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un qui me corresponde. Et les gens restent célibataires pendant des années, des années, des années, parce qu'un jour, quelqu'un leur a dit, mais toi, t'es bonne à rien, tu rencontreras jamais la bonne personne. Quelqu'un peut marcher des années à se dire, je ne saurai jamais cuisiner. Peut-être parce qu'il y a très longtemps, il a tenté quelque chose et quelqu'un lui a dit, t'es bon à rien, tu ne sauras jamais préparer un bon repas. Et il a construit une forteresse. Tu ne pourras jamais faire ça, tu n'obtiendras jamais ceci. Tu ne réussiras jamais, tu ne vaux rien, tu n'es bon à rien. Ou alors, face à une situation donnée, on peut soi-même réagir et dire, non, maintenant, je ne ferai plus jamais confiance à personne. Résultat, vous n'arrivez plus à bâtir de relations parce que vous n'arrivez plus à faire confiance à cause d'une déception. Ou alors, des choses comme, je ne dois pas montrer mes sentiments. Personne ne doit savoir ou doit voir ce que je ressens. Résultat, vous vous enfermez, vous devenez extérieurement, peut-être, vous avez l'air fort, stable, vous avez l'air d'être établi. Vous ne montrez pas vos émotions, mais en vous-même, vous êtes en train de refouler des choses, vous êtes en train d'enfermer, vous êtes enfermé dans une prison, et résultat, vous ne vivez plus pleinement. Et beaucoup de gens comme ça, peut-être extérieurement, vous les voyez, ils ont l'air bien, mais en réalité, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne vivent pas pleinement leur vie. Mais Christ est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance, pour que nous vivions pleinement notre vie, pour que nous épanouissions, que nous progressions, que nous allions de l'avant. Et ça passe par le fait d'abattre et de renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Et ce matin, on va un petit peu cogner dans certaines forteresses, en ce qui nous concerne personnellement. Et je pense qu'on aura l'occasion de taper encore dans d'autres forteresses sur d'autres sujets. Mais aujourd'hui, on va casser quelques forteresses. Jean chapitre 8, 31 et 32. Jean chapitre 8, 31, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ou bien encore, la vérité vous rendra libre. Donc on voit ici déjà une clé, c'est que la vérité nous affranchit. La vérité nous libère. Et comme je l'ai montré pour l'exemple de cette dame que j'ai vue à la télé hier soir, de la même façon dans nos vies, beaucoup de forteresses ont été bâties sur des raisonnements erronés, sur des mensonges, sur une perception déséquilibrée. Mais alors que nous commençons à connaître la vérité, cette vérité nous rendra libres. Comment connaître la vérité? En demeurant dans la parole. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, demeurer dans la parole, c'est pas juste entendre un coup comme ça un petit peu la Bible. C'est pas juste lire un petit peu un verset comme ça. C'est pas juste le dimanche écouter des messages, même si on fait le maximum pour vous donner un concentré à travers les messages, mais demeurer dans la parole. Je passe du temps. On a déjà parlé précédemment de la méditation de la parole de Dieu. Je passe du temps dans la parole. Je fais cette parole vivre en moi. Jusqu'à tel point que cette parole commence à prendre vie en moi-même. Qu'elle commence à faire part intégrante de moi-même. Jusqu'à ce que cette parole commence à être ce qui fait le standard, ce qui fait loi dans mon cœur. Jusqu'à ce que cette parole que j'ai lue, que j'ai entendue, que j'ai peut-être reçue intellectuellement ou en passant, devienne quelque chose qui est vivant dans mon cœur, devienne une révélation de Dieu. Et alors, la puissance libératrice qui est contenue dans cette parole va pouvoir agir dans mon cœur. Un exemple simple et pourtant tellement courant et flagrant. Tant de chrétiens considèrent qu'ils sont pécheurs. J'entends souvent les gens prier, « Seigneur, nous ne sommes que des pécheurs. » J'entends les gens dire, « Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. » Je suis déjà en train de taper un grand coup. Excusez-moi, mais je ne peux parler qu'au nom de la vérité. Si vous êtes né de nouveau, que vous avez été sauvé, vous n'êtes plus un pécheur. C'est une forteresse que vous avez bâtie peut-être par votre vie de péché, ou peut-être parce qu'un jour on vous a prêché l'évangile et vous avez compris que Dieu était là juste pour vous condamner et qu'il fallait vous être pardonné de vos péchés et être sauvé. Mais le jour où vous êtes né de nouveau, la Bible déclare que vous êtes devenu une nouvelle créature. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances vous condamnaient a été cloué à la croix. La Bible déclare que vous n'êtes plus la même personne et que Dieu ne se souvient même plus de vos péchés. Vous n'êtes plus un pécheur, vous êtes juste. Vous avez été racheté. Et la Bible déclare que si toutefois il arrive à un juste de pécher, eh bien il lui suffit de se repentir de ses péchés, de les confesser. Et Dieu est fidèle pour nous rendre de nouveau purs, blancs comme neige, comme s'il ne s'était rien passé. Mais vous restez juste. Vous n'êtes plus un pécheur, vous êtes un juste qui a fait un péché. Mais vous ne demeurez pas dans le péché, vous vous repentez et vous en sortez. Mais cette pensée de se dire « je suis un pécheur » pour un chrétien, ça conditionne tout un mode de fonctionnement, tout un mode de pensée. Si je suis un pécheur, je ne peux pas venir librement devant Dieu. Pourtant, la Bible déclare que j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. La Bible déclare que je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce. La Bible déclare que Dieu est mon Père, qu'il veut mon bien, qu'il est prêt à me donner tout ce qui contribue à ma vie, à ma piété, à ma santé, à ma progression. Quelqu'un dise avec moi, je ne suis pas un pécheur. Je suis juste, racheté, aimé de Dieu, agréable à mon Père. Amen, amen, amen. La vérité vous rendra libre. Vous savez, face aux paroles et aux pensées erronées qu'on a pu avoir de différentes sources, mais on a juste qu'à répondre avec la parole de Dieu. On a juste à répondre en disant « Non, moi je ne suis pas ce que dit cette pensée, je suis ce que Dieu dit que je suis. » Lorsque Jésus a été tenté au désert et que l'ennemi est venu avec apparemment certaines paroles qui auraient pu être de Dieu pour le tenter, Jésus lui a répondu « Il est écrit. » Il est écrit. Il est écrit. Et en utilisant efficacement la parole de Dieu, Jésus a surmonté cette tentation et sorti vainqueur. De la même façon, nous avons besoin de demeurer dans la parole pour que lorsque certaines pensées se présentent à nous, que nous réalisons ne pas être juste, droite, agréable, équilibré et tout ce qu'elle devrait être, nous pouvons répondre par une parole de Dieu. Lorsque nous nous sentons accusés en disant « mais toi, t'es bon à rien, tu retombes toujours dans les mêmes péchés », vous répondez avec la parole de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La vérité nous rendra libres. Donc à travers la parole de Dieu, nous avons besoin d'assimiler, mais ça on en a déjà parlé, aussi dans les temps que nous passons dans la présence de Dieu, la prière, la louange, l'adoration, permettons au Saint-Esprit d'agir sur nous, de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes. Et comme tout à l'heure nous avons pu nous le rappeler par l'inspiration du Saint-Esprit, lorsque nous abandonnons dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La nature divine se développe en nous et de plus en plus nous devenons conformes à l'image qu'il a de nous. De plus en plus nous prenons conscience de ce que nous sommes réellement et nous pouvons progresser dans cette direction. J'aimerais vous montrer encore Éphésiens chapitre 1er. Une prière de l'apôtre Paul pour les croyants, qui est aussi ma prière ce matin. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17. Donc, Paul prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On voit ici qu'il prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire qu'il fasse venir la lumière sur ce qui se passe dans votre cœur. On parle de notre esprit pour recevoir des révélations, mais lorsqu'il est dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, en fait il dit qu'il illumine vos pensées. Je vous rappelle notre premier message, les images intérieures. Nous avons des yeux, notre cœur, les yeux de notre cœur, c'est en fait les yeux avec lesquels nous voyons les images que nous nourrissons et vers lesquelles nous allons nous porter. Et Paul prie que le Père de gloire puisse illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous voyez, c'est-à-dire que pour que vous mettiez devant vous la bonne image intérieure, qu'il illumine vos pensées, qu'il éclaire vos raisonnements pour mettre en valeur ce qui, dans vos raisonnements, peut-être ne correspond pas à ce que Dieu dit, en ayant pour objectif et résultat de mettre à la place ce que Dieu dit. Hein, par exemple, dans l'Épître aux Romains, il est dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu va directement parler dans nos cœurs à certains moments, dans notre esprit. On reçoit des révélations, mais à un moment, ces révélations ont besoin de devenir aussi une connaissance acquise. C'est-à-dire que Dieu me parle dans mon esprit, mais si ça ne se communique jamais de façon intelligible à ma pensée, ça ne me sera d'aucune utilité. D'accord ? Parfois, on peut passer un temps, on entend une parole de Dieu, elle passe comme ça, mais réalisez que parfois vous avez peut-être entendu un message, moi ça a été mon cas, sur certains enseignements. Il m'est arrivé d'entendre un message ou des enseignements un jour, et c'est passé comme ça, j'ai entendu, j'ai à peu près compris ce qui s'était passé. Mais parfois quelques temps plus tard, parfois quelques jours, quelques semaines, même quelques mois ou quelques années plus tard, tout d'un coup il y a une lumière qui s'allume. Je dis « Waouh, c'était ça !» Ce que j'ai entendu la dernière fois, la phrase qui avait été dite, que j'avais compris juste comme ça en passant, et bien maintenant je comprends, c'est devenu pour moi une révélation, et je vais pouvoir agir dessus. Et c'est important pour nous de saisir ces choses-là, et que nos yeux, les yeux de nos cœurs puissent être illuminés, éclairés. C'est-à-dire qu'on puisse voir d'une façon réelle qui nous sommes, quelles sont nos pensées, quels sont les raisonnements que nous nourrissons. Dans l'épître de Jacques, il est dit de pratiquer la parole et de ne pas se tromper soi-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire qu'on peut se tromper nous-mêmes. On peut penser qu'on pense bien, et en réalité, on est complètement à côté. On a besoin que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut le faire, il va le faire. Pour qu'en voyant ce qui se passe réellement dans nos pensées, ce qui se passe réellement dans nos raisonnements, en voyant peut-être quelle muraille, quelle forteresse on a construite, eh bien nous puissions aussi en sortir et les abattre avec la vérité de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons recevoir par l'intelligence, mais il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin d'une révélation. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous révéler les choses. 1 Corinthiens 2, 14, je vais juste vous lire rapidement. Il est dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours de la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Car l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, avec juste nos pensées naturelles, humaines, charnelles, il y a des choses qu'on ne peut même pas saisir. Mais le Saint-Esprit vient nous communiquer la pensée de Dieu pour que nous puissions saisir d'un point de vue spirituel ce que Dieu désire pour nous, comment il nous a créés, quels sont ses plans, ses projets, ses objectifs pour notre vie et que nous puissions nous porter dans cette direction. Parce que nous, personnellement, nous parvenons à des conclusions à force de raisonnement. On a une pensée qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, on réfléchit par rapport à notre éducation, etc. Et on tire des conclusions. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre connaissance qu'on appelle la connaissance révélée, où vous ne tirez pas les conclusions par rapport à ce que vous raisonnez, mais où vous avez une conviction intérieure par le témoignage du Saint-Esprit de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce que Dieu veut pour vous. Et c'est cette connaissance-là qui va faire briller la lumière dans nos cœurs, dans cette forteresse peut-être où dans certains domaines nous sommes enfermés et qui va nous permettre d'abattre les forteresses avec cette vérité que l'Esprit de Dieu sera venu nous servir. Proverbes chapitre 3, verset 5, ne cherchez pas spécialement, vous pouvez noter, il est dit « Confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Donc à certains moments, c'est vrai que nous devons utiliser notre intelligence, mais il est vrai aussi que si nous voulons être transformés par un renouvellement de l'intelligence, nous devons passer à un stade supérieur, un stade différent. On ne peut pas se contenter juste de raisonner, de tirer des conclusions à partir de ce que nous voyons selon notre intelligence, selon ce que nous avons appris. Nous avons besoin de nous confier en Dieu, de croire que ce qu'il dit est vrai, de croire qu'il est capable de nous amener plus loin que ce que nos raisonnements pourraient nous permettre d'attendre de la vie et de croire, et nous faire sortir de ces forteresses. Donc, on va essayer de rétablir rapidement quelques vérités à notre sujet qui vont nous aider à abattre des forteresses que nous avons pu nous forger. On a parlé tout à l'heure de ne pas être accusé, de ne pas être condamné. Tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez capable, tu n'as pas suffisamment bien fait, tu n'as pas su faire la bonne chose, tu as fait trop d'erreurs, tu n'as pas fait ça comme il fallait. Et à longueur de temps, on s'accuse et on s'accuse soi-même régulièrement. Soit on se dit « moi je mérite pas d'être heureux parce que j'ai fait telle chose » ou bien « ah mais je suis pas assez saint, je suis pas assez grand, je suis pas assez bon ». C'est vrai qu'on doit tous désirer progresser, mais à un moment donné ça ne sert personne de s'accuser. Et vous pouvez noter en passant en Romains chapitre 8 qui est un excellent rappel régulier de se dire que qui nous condamnera, Dieu nous justifie. De se dire que Christ a fait de nous une nouvelle créature, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui est victorieux par son amour, et beaucoup de choses comme cela qui nous rappellent notre justification et notre état en Christ. Parce que lorsque des pensées arrivent vers nous pour nous accuser en nous disant « mais toi, t'as trop mal fait, tu ne feras jamais rien de bon, tu ne pourras jamais y parvenir », eh bien nous devons répondre à ces pensées par la vérité. La Bible déclare que j'ai été rendu juste, nous l'avons vu tout à l'heure. La Bible déclare qu'il m'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. La Bible déclare que ce qui est au Père est au Fils, et ce que le Fils a, il me l'a donné. Et on pourrait continuer la liste pendant toute la journée. Mais lorsque nous avons ces pensées accusatrices, on ne peut pas se contenter juste de dire « bah ouais, je peux pas » ou à la limite de se dire « oui, bon, il faut que j'arrête de penser à ça ». Vous ne pouvez pas juste arrêter de penser. C'est impossible d'arrêter de penser. Ça, sachez-le, c'est impossible. On pense tout le temps. Et parfois, les gens vous disent « je pense à rien », vous pensez tout le temps. On ne peut pas arrêter de penser. Donc si on veut arrêter de mal penser, on n'a pas d'autre choix que de mettre à la place une bonne pensée. Donc quand il y a une pensée d'accusation qui arrive, on met à la place une pensée de ce que Dieu déclare à mon sujet. Une pensée de justice, une pensée de capacité, une pensée d'acceptation, une pensée de progression. Que si on laisse les pensées accusatrices nous harceler, tourner en nous, ça va produire en nous une image négative, une image de défaite, et automatiquement on va se porter vers là. Et je crois qu'on a parfois besoin de comprendre que, oui, Dieu nous demande des choses qui peuvent paraître élevées, puisque Dieu nous appelle à sa sainteté, Dieu nous appelle à nous séparer du monde, à ne pas pécher, à ne pas être dans les mêmes convoitises que ce monde, c'est vrai. Et je suis pas en train de prêcher un espèce d'évangile où je dis « faites ce que vous voulez, c'est pas grave, Dieu vous aime, Dieu vous pardonne ». Mais ce que je dis, c'est que lorsque nous avons mal fait, lorsque nous avons péché, nous avons l'assurance de pouvoir nous repentir. Mais une fois que nous sommes repentis, nous avons aussi l'assurance d'avoir été pardonnés. Et une fois que j'ai été pardonné, il ne m'est d'aucune utilité de continuer de camper dans la position où je dis « ah, mais j'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait ». Tu as été pardonné, donc tu laisses ça derrière et tu recommences et tu vas de l'avant. Et trop souvent, nous restons campés sur une erreur et sur un échec. Alors que si Dieu m'a pardonné, ce n'est pas pour que je campe ici, c'est pour que je saisisse par la foi une nouvelle occasion de recommencer et de réussir, de bien faire cette fois-ci. Et j'aimerais aussi encourager certains d'entre nous à relâcher la pression. Parfois, on se met nous-mêmes une pression. Ah, il faut que ce soit parfait. Il faut que je sois parfait. Il faut que je dise pas un mot de travers. Il faut que je fasse rien de travers. Et c'est un bon objectif et c'est très bien. Nous devons aspirer aux choses élevées. Nous devons nous mettre pour objectif d'être des gens excellents, d'être les meilleures personnes sur la terre. Et parmi vous, il y a des semences des meilleures personnes sur la terre. Vous faites partie des meilleures personnes sur la terre. Parce que vous avez choisi d'écouter la parole de Dieu. Vous avez choisi de laisser le Saint-Esprit vous renouveler. Vous avez choisi de passer un temps dans la présence de Dieu. Et la meilleure chose, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Et on peut devenir meilleur, mais par la capacité de Dieu. Et parfois, on se met la pression de devoir ou vouloir être le meilleur, de devoir faillir en rien. Et le problème, c'est que si on veut le faire par soi-même, de toute façon, on n'y arrivera pas. Et le problème, c'est que des fois, on se met une telle pression qu'on ne s'autorise même plus à être soi-même. Je dois toujours être parfait. Je dois toujours avoir exactement la bonne apparence. Je dois toujours parler exactement de la bonne manière. À quoi ça me conduit, par exemple, sur des choses très simples comme l'habillement? Peut-être qu'un jour, en week-end, j'ai envie de me détendre et j'avais juste envie de mettre un petit short et un t-shirt léger et d'être comme ça. Mais certaines personnes se mettent tellement la pression de devoir être toujours une parfaite apparence qu'ils ne s'autorisent même pas de mettre une tenue décontractée. Leur cœur voudrait pouvoir être simple, décontracté, tranquille, mais ils se mettent une pression en disant « Non, il faut que je sois bien présentable, chemise, pantalon et tout ce qu'il faut. » Parfois, dans une discussion, on a envie d'éclater de rire et juste d'être soi-même et de se réjouir avec les gens qui sont autour de soi, mais comme il faut qu'on soit respectable, présentable, on se met une telle pression qu'à l'intérieur, j'ai envie d'éclater de joie et de rire, mais extérieurement, je reste d'un calme olympien, je reste posé. Et certes, il faut savoir se maîtriser, avoir une tenue, mais pas au point de ne plus être soi-même. Pas au point de ne plus exister. La Bible déclare que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais qu'il regarde dans notre cœur. Et vous savez quoi? Dieu vous a créé comme vous êtes et il aime ce que vous êtes. Dieu nous a créé unique. Dieu nous a donné une personnalité, une identité. Ça lui plaît, il aime ça et il veut en faire quelque chose. Alors arrêtons de nous enfermer, de nous mettre la pression d'être comme autre chose ou comme quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Vous êtes un original. Et parfois les gens peuvent se dire « ceux-là c'est des originaux ». Mais s'ils disent ça, moi je dis « Amen, gloire à Dieu ». J'ai pas dit d'être des marginaux et des déséquilibrés. Mais soyez vous-même, vous êtes un original. Vous savez, des fois on veut tellement bien faire, même en tant que chrétien. Quand on vient à l'église, c'est très bien d'avoir une bonne tenue, d'être présentable, de se tenir correctement, d'être respectueux, tout ça, c'est très bien et ça fait partie d'un respect, d'un honneur pour Dieu. Mais trop de gens, quand ils entrent quelque part où c'est une réunion chrétienne, tout d'un coup, ils deviennent un petit peu bizarres. Tout d'un coup, ils se tiennent droit comme des piquets. Le sourire, s'il y en a un, par chance, c'est un sourire vraiment figé. Il faut surtout pas taper trop fort dans les mains, de peur de faire trop de bruit. Il faut pas dépasser les 30 cm carrés que j'occupe. Je fais exprès de prendre des exemples un peu extrêmes pour qu'on rigole, mais je sais que chacun pourra peut-être le relier à certains de ses propres comportements. Vous savez quoi? Dieu nous a jamais demandé ça. Ce que Dieu désire, au contraire, et par exemple, Quand on rentre dans une église, il prend plaisir, il se réjouit lorsque David est en train de danser de toutes ses forces. Et quand les gens le traitent de ridicule, Dieu prend plaisir, il se réjouit. On a besoin de sortir de ces choses-là. Vous savez, je vous rappelle quand même un principe de base de notre foi, hein, en bon protestant ou évangélique ou ce que vous voulez, ou tout simplement chrétien fondé sur la Bible. Nous sommes sauvés par quoi ? On est sauvés par quoi ? Par la grâce et au moyen de la foi. D'accord ? Ça, c'est un des principes fondateurs de la réforme. Et merci Seigneur pour les réformateurs qui ont ressorti ça pendant que l'Église essayait de mettre la pression à tout le monde pour être sauvé par les œuvres et par l'argent. Donc merci Seigneur pour eux. Souvent, je bénis Dieu pour les réformateurs. Hein, on peut dire, ouais, la religion, c'est pas ça, c'est mort, tout ça. Oui, mais un jour, quelqu'un est sorti d'un truc mort pour amener une autre lumière de la part de Dieu. Et puis un autre, une nouvelle. Et un autre, une nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes en train encore d'amener quelque chose de la part de Dieu. Et même si l'idée de Dieu, c'est que nous puissions avancer dans son mouvement sans avoir besoin de passer à autre chose, mais de pouvoir juste continuer dans le flot de Dieu. Mais tous ces gens-là ont apporté quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes où nous sommes parce qu'un jour, quelqu'un est sorti du cadre de ce qui devait être conforme et est sorti en étant transformé par le renouvellement de son intelligence et en disant « Attention, la vérité, c'est ça !» Et cette vérité a cassé des forteresses. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, avant toute chose. Et pas, on n'est pas sauvés par nos œuvres, on n'est pas sauvés parce qu'on prend une bonne apparence, on n'est pas sauvés parce qu'on s'oblige à certaines choses et qu'on s'interdit certaines autres choses. On est d'abord sauvés par la grâce, parce que Dieu nous aime, parce qu'il a payé un prix pour nous. Donc cessons de nous accuser nous-mêmes, d'écouter toutes ces voix accusatrices. Dieu nous aime, il veut le meilleur pour nous, il veut que nous puissions être épanouis, être pleinement nous-mêmes. Et c'est un atout. Moi je dis que la diversité c'est une bénédiction, c'est un atout. Je ne veux pas que vous soyez comme moi. Vous pouvez vous inspirer des choses dans lesquelles vous estimez que peut-être je puisse être, plaise à Dieu, un modèle dans certains domaines, de marcher avec Dieu, etc. Mais ne faites pas la même chose que moi. Ne parlez pas comme moi, ne vous habillez pas comme moi, ne vous comportez pas comme moi. Soyez vous-même. Moi, je veux voir ici, et vous savez, c'est ce qui est dans mon cœur, je ne veux pas voir ici des photocopies de Fabien. Je veux voir ici la diversité de Dieu en manifestation. Je veux voir dans cette assemblée et au-delà avec les relations qu'on a, je veux voir toute la diversité, tout le panel, toute la grandeur de ce que Dieu est capable de faire. On n'est pas là pour se conformer à quelque chose, on est là pour être métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence, en acceptant ce que Dieu dit de chacun d'entre nous et en progressant dans cette direction. Donc, ne vous laissez pas accuser et ne restez pas dans l'accusation. Arrêtez de vous autocritiquer abusivement. Les gens, ils sont prisonniers d'eux-mêmes, pas sortant à dire « Ah, mais je suis pas assez comme ça, ah, mais c'est pas comme ça, et je suis pas bon, je suis pas si. » Ça vous avancera à rien du tout. Osez être vous-même. Laissez juste votre cœur s'exprimer. Et même si on a besoin de corriger certaines choses, mais Dieu va nous donner la grâce et la faveur de pouvoir ajuster ce qu'il faut pour être nous-mêmes tout en étant en phase avec ce que lui, il attend de nous. Et ça demande une autre chose qui est reliée de très près, c'est d'apprendre à s'aimer et à s'accepter soi-même. Vous connaissez les 10 commandements, Exode chapitre 20. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Vous avez dit, oui, on connaît, on sait. Mais si tu veux aimer ton prochain, tu dois commencer par t'aimer toi-même. Si je ne suis pas capable de m'aimer et de m'accepter moi-même, je suis incapable d'aimer quelqu'un et d'accepter l'autre. Et c'est ce qui fait que quelqu'un qui a du mal à s'accepter a du mal à avoir une relation épanouie avec quelqu'un. Et parfois on se dit, mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Ou certainement c'est l'autre qui a un problème. Non, ça doit être ma femme qui a un problème pour que ça ne passe pas. Mais tant que tu ne t'acceptes pas et que tu ne t'aimes pas toi-même, je ne parle pas d'être narcissique, hein, faut toujours équilibrer. Parle de s'aimer soi-même en acceptant le regard de Dieu sur nous, en acceptant que nous sommes créés par Dieu, qu'il nous aime, que nous avons une valeur. Mais si je ne me mets pas dans cette position, je ne pourrai pas aimer quelqu'un d'autre authentiquement. Et si je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas, si je ne m'aime pas, je ne peux pas réellement manifester l'amour vers quelqu'un d'autre. Et résultat, parfois, si je suis trop exigeant envers moi-même, je vais trop exiger de quelqu'un d'autre. Et je suis en train de construire une forteresse. Oui, soyons exigeants envers nous-mêmes, soyons des gens qui ont une attitude d'excellence. Mais ne soyons pas exigeants au point de ne pas nous aimer et au point de nous dénigrer. Notre exigence doit être une motivation pour progresser et faire mieux. Mais si votre exigence est un sujet pour vous dénigrer, pour vous rabaisser, vous n'êtes pas dans l'équilibre, c'est pas bon. On doit désirer faire mieux, progresser, mais on ne doit pas se dénigrer. Si on est en conflit envers soi-même, qu'on manque d'assurance, qu'on se dénigre sans arrêt, c'est la même chose qu'on va communiquer aux autres en face de nous. Et même si on essayait de bien faire, on n'y arriverait pas parce qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Il faut commencer par s'aimer et s'accepter soi-même tel que l'on est. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de ces forteresses et de ces situations en acceptant ce que Dieu dit de nous, en acceptant que Dieu nous aime, que Dieu nous a créés, en acceptant, par exemple, Psaume 139, verset 14, que nous sommes une créature merveilleuse de Dieu. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Même si parfois je regarde dans ma glace et je dis, bon, je suis peut-être pas digne d'une star de cinéma, surtout le matin quand on se réveille, surtout quand on n'est pas maquillé, n'est-ce pas? On peut se regarder et on a parfois envie de se dire des choses, mais vous savez quoi? Je vous l'ai déjà dit et c'est un bon exercice. Quand vous vous mettez devant le miroir le matin, commencez à vous dire de bonnes choses. Bonjour beauté. Salut beau gosse, comment tu vas? La Bible déclare que vous êtes une créature merveilleuse. David a dit, Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David a fait des bêtises et des grosses bêtises. Mais il était capable de dire, Dieu, merci, je suis une créature merveilleuse. Parce qu'il a compris que ce n'est pas ce qu'il fait qui définit qui il est. Il a compris que c'est ce que Dieu dit de lui qui définit qui il est. Ésaïe 43, verset 4, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Quand Dieu te regarde, il te dit, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Je t'aime. Waouh. Vous savez, parfois, quand, évidemment, votre chérie, hein, votre doudou vous dit je t'aime, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Quand votre enfant vient et dit, papa, je t'aime. Il y a quelque chose qui se passe. Mais imaginez que le créateur de l'univers, Dieu Tout-Puissant, qui siège sur son trône, qui a tout créé, qui est parfaitement saint, sans défaut, sans rien, il se tourne vers vous, il vous regarde droit dans les yeux et dit, je t'aime. Et permettez-moi de vous dire que si Dieu vous aime, qui êtes-vous pour vous permettre de ne pas vous aimer? Si Dieu vous déclare juste, pour qui vous prenez-vous pour vous permettre de vous accuser? Si Dieu dit que vous êtes capable, qu'il y a un avenir, une espérance pour vous, qui êtes-vous pour dire que vous ne parviendrez jamais à rien? Trop de gens passent leur temps à dire, moi je suis rien du tout. Rien faire, tout ça. C'est vrai qu'on n'est rien sans Dieu. Mais si, une fois qu'on a reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, et une fois qu'on marche avec Dieu, et qu'on est dans les traces du Seigneur, et qu'on demeure en lui, et qu'on progresse avec lui, si je continue de dire que je ne suis rien, je suis en train de dire que Jésus est mort pour rien. Parce que si avant je n'étais rien qu'un pécheur destiné à l'enfer, qui ne pouvait rien faire de sa vie parce qu'il était à côté, et maintenant que je suis venu à la lumière et Christ m'a racheté, et que j'estime que je suis toujours rien, je suis en train de dire que la croix n'a servi à rien. Ouais, je suis peut-être dur, mais pensez-y, c'est pas plus... Je sais pas aller chercher très loin, c'est la vérité. C'est la vérité. Et autant que cette dame se disait, c'est vrai, c'est absurde de se dire que toutes les voitures vont me foncer dessus, ça, ils n'ont pas envie de mourir non plus. De la même façon, peut-être que c'est absurde de m'accuser sans arrêt, alors que je suis pas ce que je dis être. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et Dieu vous aime, Dieu a de l'estime pour vous. Et Dieu a sur nous une vision qui ne correspond pas du tout à la vision de la chair et à la vision des hommes. Permettez-moi de vous dire que Dieu a une grande foi. Et quand je pense à ce que Dieu a fait de ma vie, et c'est pas fini, le meilleur est à venir, je dis que Dieu a beaucoup de foi. Parce que pour prendre celui que j'étais et en faire celui que je suis, et ensuite l'amener vers ce qu'il a prévu que je devienne, il faut beaucoup de foi. Mais laisse-moi te dire que Dieu a foi en toi. Dieu a une très grande foi, c'est lui qui l'a inventée. Dieu a eu la foi de déclarer que la lumière soit, la lumière est venue. Dieu a mis sa foi en action. Et Dieu a foi en nous, Dieu a foi dans le plan qu'il a formé sur nous. Dieu croit en vous, bien-aimés. Nous, on doit croire en Dieu, mais Dieu croit en nous. Sinon, nous ne serions pas en vie. S'il ne croyait pas en nous, il suffisait qu'il tourne l'interrupteur et qu'il nous laisse mourir, puisqu'on n'aurait plus de raison d'exister. Dieu a des projets pour nos vies, il a des projets pour son Église. Qu'elle devienne glorieuse, sans tache ni ride, influente, reflet de sa gloire sur la terre. Et il croit en nous pour entrer dans ce plan-là. Alors nous aussi croyons un peu en nous. Pas grâce à nous-mêmes et pas par nos propres sources, mais croyons en ce qu'il dit de nous. Croyons en sa puissance agissante en nous qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons et pensons, Ephésiens 3, 20. Maintenant, il est vrai que, il est dit aussi dans Romains 12, et on y reviendra, je pense, une prochaine fois, que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même. Donc c'est vrai qu'on ne doit pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Mais ce n'est pas parce qu'il ne faut pas en avoir une trop haute qu'il faut en avoir une trop basse. Dieu a une opinion de nous qui est élevée. Et cette parole, elle a été dite dans un contexte particulier, mais on verra ça plus tard, dans le contexte des relations. Il dit que personne n'ait une trop haute opinion en se croyant meilleur que tous les autres. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se dénigrer, qu'on doit céder à ce sentiment d'infériorité et d'inutilité qui fait tellement de dégâts dans ce monde. Il y a tant de gens qui n'avancent pas et qui souffrent à cause de ces sentiments d'infériorité, d'être inutile, d'être incapable, d'être même des gens qui dérangent parfois. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit de nous. Et une manière de casser ces forteresses, c'est de redécouvrir et de dire la vérité de Dieu à notre sujet. Je suis aimé de Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Dieu a un plan pour ma vie. Une autre vérité importante dans ce sens, en plus de rejeter l'accusation, en plus de s'accepter soi-même, c'est aussi que vous êtes capable. Marc 9, 23 dit que tout est possible à celui qui croit. Philippiens 4, 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et peut-être qu'on a passé du temps à vous dire des choses comme ça, que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous n'arriverez à rien. Peut-être que vous l'avez dit vous-même. Mais aujourd'hui, c'est le moment de changer. Et là où peut-être tu ne pouvais pas quelque chose ou quelque chose te paraît impossible, au lieu de dire « je ne pourrai pas le faire, j'y arriverai jamais », commence à dire « je puis tout par Christ qui me fortifie ». Commence à dire « ma capacité me vient de Dieu ». Tout est possible à celui qui croit. Et maintenant, nous avons besoin de tourner nos yeux sur ce que Dieu dit de nous, sur sa pensée à notre sujet. Dieu nous a rendus capables d'accomplir toutes les choses auxquelles il nous appelle. Dieu ne nous demande jamais rien d'impossible. Il est écrit notamment que Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Nous sommes capables de les faire, sinon il ne nous aurait pas préparé ces choses-là et il ne nous aurait pas donné à nous la responsabilité de les accomplir. Il nous a rendus capables. Dieu désire que nous réussissions, que nous ayons du succès. Psaume chapitre 1er nous parle de ça. Celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Josué 1.8, celui qui médite cette parole jour et nuit pour agir conformément, il aura du succès dans ses entreprises, il réussira. Dieu désire que vous ayez du succès, que vous réussissiez. Donc cette forteresse dans laquelle vous êtes enfermé en vous disant que vous ne pouvez rien entreprendre parce que vous échouerez, il faut lui donner des bons coups de marteau de la parole de Dieu en disant « Dieu déclare que je réussirai tout ce que j'entreprends. Dieu déclare que la victoire et le succès sont avec moi parce que je médite sa parole. » Remarquez, c'est encore lié à nos pensées. Méditer sa parole, c'est quoi? C'est nourrir mes pensées de sa parole. Faire tomber les forteresses en amenant la vérité. Vous avez besoin de ne pas vous laisser accuser. Vous avez besoin de vous accepter vous-même. Vous devez réaliser que vous êtes capable et réaliser que vous pouvez changer le cours des choses. Vous pouvez changer le cours des choses. Pas juste dire, bah, c'est comme ça, ça changera pas, ça bougera pas. On peut changer le cours des choses. Le psaume 84, verset 7. Psaume 84, verset 7. On va prendre au verset 6. Et dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que ceux qui se confient en l'Éternel, lorsqu'ils traversent une vallée de pleurs, lorsqu'ils traversent la désolation, lorsqu'ils traversent les difficultés, lorsqu'ils traversent la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Il la transforme. Il n'est pas dit « Dieu la transforme », il est dit « Il la transforme ». Donc nous avons ce pouvoir, entre guillemets, de la part de Dieu, que là où nous passons, si c'est un lieu sec, un lieu mort, un lieu vide, un lieu de désolation, un lieu de pleurs, nous pouvons le transformer en un lieu plein de sources. Pourquoi? Parce que nous puisons en Dieu, et ce que nous avons puisé en lui, maintenant nous pouvons le communiquer. La vallée des pleurs. On peut avoir des difficultés. Il n'est pas dit que les difficultés disparaîtront de notre vie. Mais Dieu nous donne la force de tout surmonter. Et quand nous traversons des problèmes, des difficultés, la situation ne reste pas telle qu'elle est. La situation est transformée. Mais comment? Parce que nous amenons la transformation par la foi, en nourrissant la bonne pensée, en nourrissant la bonne parole de Dieu et en amenant sa puissance à se manifester. Donc quelqu'un qui va changer le cours des choses, quelqu'un qui va être positif, qui va abattre les forteresses, c'est quelqu'un qui ne va pas juste rester là à pleurer sur une situation, mais c'est quelqu'un qui va chercher le moyen d'en sortir. Et mieux que ça encore, devant une situation, plutôt que de s'arrêter de pleurer en disant « là, il n'y a plus de passage, c'est plus possible », on se réjouit et on commence à louer, en disant « merci Seigneur, parce que tu as prévu une issue. Je me réjouis parce qu'il y a déjà une sortie, tu as déjà pourvu, tu as déjà tout disposé et cette situation doit se transformer. Ce qui doit changer, ce n'est pas nous dans notre position de foi, ce qui doit changer, c'est la situation qui s'oppose à ce que Dieu déclare. Nous devons être des gens déterminés, des combattants. Quelquefois, on change notre position vis-à-vis de la parole de Dieu à cause de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas autour de nous. Ça, c'est terminé, c'est pas conforme ça au plan de Dieu. Ce sont les circonstances qui doivent changer pour s'aligner sur la parole de Dieu. Et à aucun moment, ce n'est notre foi en la parole qui doit changer à cause des circonstances. Nous sommes appelés à changer le cours des choses. Et plusieurs fois, Dieu a dû parler à ses serviteurs dans certaines circonstances pour les faire sortir d'une vallée des pleurs, d'une vallée de désolation. Élie, après une grande victoire contre les prophètes de Baal, il est parti se cacher quelque part. Et Dieu est venu et dit « Mais que fais-tu ici ?» Mais ensuite, il lui a redonné le courage et la force aussi de s'en sortir et d'avancer. Donc nous pouvons changer le cours des choses en regardant les choses positivement. Quand un problème arrive, on le regarde comme une solution qui arrive. Quand on est déçu de quelque chose, on va s'attendre peut-être à une meilleure réponse derrière. Quand on reçoit une réponse négative, on va s'attendre peut-être à une meilleure opportunité. Au lieu de juste camper sur ce qui ne va pas, voyons ce qu'il y a de bon derrière qui va prendre la place de ce qui n'allait pas, et c'est ce que nous allons attirer. Et je conclue en nous disant et en nous rappelant que nous pouvons surmonter toute difficulté et que nous pouvons abattre toutes les forteresses à notre sujet. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. 1 Corinthiens chapitre 10, revenons-y s'il vous plaît, et au verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Il est dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu a déjà prévu le moyen de sortir de toute difficulté, de toute tentation. Et y compris des forteresses que nous avons bâties. Parce que finalement, lorsqu'on est prisonnier de ces forteresses, quelque part, nous avons succombé à une tentation, la tentation de ne pas penser la bonne chose, d'accorder du crédit à une pensée erronée qui a eu pour résultat de bâtir une forteresse. Mais il n'y a aucune situation à laquelle nous soyons confrontés pour laquelle Dieu n'ait pas préparé une issue, pour laquelle nous ne sommes pas capables d'en sortir. Et je voudrais dire vraiment ce matin par rapport à tout cela, et on pourrait rajouter beaucoup d'autres paroles, mais on va laisser au Saint-Esprit le soin de continuer de témoigner dans nos cœurs, mais trop de gens se disent « mais moi, je ne peux pas changer, j'ai toujours été comme ça. Bien, j'ai toujours eu ces pensées et ça ne pourra jamais être autrement. » On va te dire que Dieu dit que ça peut être autrement parce qu'il a déjà prévu le moyen de sortir, il a déjà prévu l'issue favorable. Mais il nous appartient à nous de nous aligner sur ce que Dieu a dit et de laisser nos pensées être transformées, renouvelées. Et même si ça peut être difficile à un moment, peut-être qu'il va falloir se faire violence, qu'il va falloir souffrir un petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est la première épître de Pierre, je crois au chapitre 5, où il est dit qu'après avoir souffert un peu de temps, vous serez établi, fortifié, fort en Christ. Donc même s'il y a une petite souffrance qui est de se faire violence en disant « Non, il faut que je sorte de ce système que j'ai établi autour de moi, il faut que je sorte de ces murailles, de ces forteresses et que je sois réellement moi-même, pour pouvoir aimer réellement les autres, pour pouvoir laisser réellement Dieu m'aimer et aimer Dieu comme il se doit, pour réellement m'épanouir et progresser. Peut-être qu'au début, je vais devoir faire des efforts, me faire violence. » Mais après avoir souffert un peu de temps, ce sera la joie, la gloire d'être entré dans le plan de Dieu, la liberté, la paix, la vie en abondance. Donc, soyons affranchis par la vérité de Dieu. Abattons les forteresses. Quand il y a de l'accusation, on répond avec la parole de Dieu. Quand on se dénigre soi-même, on arrête ça, on répond par la parole de Dieu. Quand on regarde les autres, on répond par la parole de Dieu. Et je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Quand on est devant une situation, au lieu de regarder mes ressources, je réponds avec la parole de Dieu. Avec les ressources de Dieu. Je réalise que je peux changer le cours des choses. Apprenons à demeurer encore davantage dans la présence de Dieu, pour encore mieux le connaître, comprendre ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire de nous, ce qu'il a préparé pour nous. Et libérez-vous des standards que vous vous imposez. Souvent, nous avons mis la barre beaucoup plus haut que Dieu lui-même. Vous savez, je dis parfois en plaisantant qu'il y a des gens qui sont plus spirituels que le Saint-Esprit. Arrêtez de vous mettre la pression. Soyez vous-même, soyez libre, recevez la paix de Dieu. Et peut-être simplement pour mettre ça en pratique, je vais en rester là pour l'instant, mais pour mettre ça en pratique, mettez-vous devant le Seigneur, prenez un temps et demandez au Seigneur de faire briller sa lumière dans vos cœurs, de pouvoir éclairer vos pensées, de voir est-ce qu'il y a des forteresses qui sont là, est-ce qu'il y a des raisonnements erronés, est-ce qu'il n'y a pas quelque part où je suis prisonnier de certaines choses. Certains d'entre nous, on peut être conscient déjà d'être prisonnier de certaines choses et chercher le moyen d'en sortir, Mais Dieu vous a donné, Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Et pour d'autres, peut-être qu'on n'en est pas conscient. Et on ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'on est devant une situation, ça ne marche pas. Pourquoi j'ai déjà passé 2, 5, 10, 20, 50 entretiens d'embauche et j'y arrive jamais? Peut-être qu'il y a une forteresse quelque part qui me tient captif. Parce que quelque part, un jour, j'ai nourri une pensée que je n'aurais pas la faveur des gens, que je n'étais pas à la hauteur. Pourquoi est-ce que j'ai peut-être déjà approché plusieurs personnes et puis jamais je n'ai pu aboutir dans une relation? Pourquoi est-ce que j'ai déjà calculé, élaboré des projets jusque dans le moindre détail, mais à chaque fois le projet était avorté? Peut-être y a-t-il des forteresses dont je suis captif et qui ne me permettent pas d'aller au bout des choses. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Saint-Esprit veut mettre la lumière dans nos cœurs, nous faire voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe exactement. Et le but, c'est de nous en libérer. Il est prêt à nous donner la force, la grâce et le pouvoir d'avancer, mais ça commence par une chose, nous devons accepter, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous devons prendre la décision et nous-mêmes nous saisir des armes de Dieu pour abattre les forteresses. Prendre cette parole de Dieu et donner des coups jusqu'à temps que ça tombe, jusqu'à temps que ça soit complètement anéanti et qu'on vive pleinement dans la liberté que Dieu a prévue pour nous. Ça vous plaît ce programme? Amen. Ok, gloire à Dieu.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision, une initiative du Centre Zoé avec Fabien Végel. Il est interdit de le vendre ou de le modifier. Pour tout renseignement, connectez-vous au www.provisiondevie.com.